France de Galais. La course avait fini trop tôt. Il était 4h30 et il faisait jour encore lorsque Maulne se retrouva dans sa chambre, la tête pleine des événements de son extraordinaire journée. Il s'assit devant la table, désœuvré, attendant le dîner et la fête qui devait suivre. De nouveau soufflait le grand vent du premier soir. On l'entendait gronder comme un torrent ou passer avec le sifflement appuyé d'une chute d'eau. Le tablier de la cheminée battait de temps à autre. Pour la première fois, Maulne sentit en lui cette légère angoisse qui vous saisit à la fin des trop belles journées. Un instant, il pensa allumer du feu, mais il essaya vainement de lever le tablier rouillé de la cheminée. Alors il se prit à ranger dans la chambre. Il accrocha ses beaux habits au porte-manteau, disposa le long du mur les chaises bouleversées, comme s'il eût tout voulu préparer là pour un long séjour. Cependant, songeant qu'il devait se tenir toujours prêt à partir, il plia soyeusement sur le dossier d'une chaise, comme un costume de voyage, sa blouse et ses autres vêtements de collégien. Sous la chaise, il mit ses souliers ferrés, pleins de terre encore. Puis il revint s'asseoir et regarda autour de lui, plus tranquille, sa demeure qu'il avait mise en ordre. De temps à autre, une goutte de pluie venait rayer la vitre qui donnait sur la cour aux voitures et sur le bois de sapin. Apaisé, depuis qu'il avait rangé son appartement, le grand garçon se sentit parfaitement heureux. Il était là, mystérieux étranger, au milieu de ce monde inconnu, dans la chambre qu'il avait choisie. Ce qu'il avait obtenu dépassait toutes ses espérances, et il suffisait maintenant à sa joie de se rappeler ce visage de jeune fille dans le grand vent qui se tournait vers lui. Durant cette rêverie, la nuit était tombée sans qu'il songeât même à allumer les flambeaux. Un coup de vent fit battre la porte de l'arrière-chambre qui communiquait avec la sienne et dont la fenêtre donnait aussi sur la cour aux voitures. Maulne allait la refermer lorsqu'il aperçut dans cette pièce une lueur comme celle d'une bougie allumée sur la table. Il avança la tête dans l'entrebâillement de la porte. Quelqu'un était entré là, par la fenêtre sans doute, et se promenait de long en large à pas silencieux. Autant qu'on pouvait voir, c'était un très jeune homme. Nu-tête, une pèlerine de voyage sur les épaules, il marchait sans arrêt comme affolé par une douleur insupportable. Le vent de la fenêtre qu'il avait laissée grande ouverte faisait flotter sa pèlerine et, chaque fois qu'il passait près de la lumière, on voyait luire des boutons dorés sur sa fine redingote. Il sifflait quelque chose entre ses dents, une espèce d'air marin, comme en chantent pour s'égayer le cœur les matelots et les filles dans les cabarets des ports. Un instant, au milieu de sa promenade agitée, il s'arrêta et se pencha sur la table, chercha dans une boîte, en sortit plusieurs feuilles de papier. Maulne vit de profil, dans la lueur de la bougie, un très fin, très aquilin visage sans moustache, sous une abondante chevelure que partageait une raie de côté. Il avait cessé de siffler. Très pâle, les lèvres entr'ouvertes, il paraissait à bout de souffle, comme s'il avait reçu au cœur un coup violent. Maulne hésitait. S'il allait par discrétion se retirer ou s'avancer, lui mettre doucement en camarade la main sur l'épaule et lui parler. Mais l'autre leva la tête et l'aperçut. Il le considéra une seconde, puis, sans s'étonner, s'approcha et dit en affermissant sa voix « Monsieur, je ne vous connais pas, mais je suis content de vous voir, puisque vous voici, c'est à vous que je vais expliquer. » Voilà. Il paraissait complètement désemparé. Lorsqu'il eut dit « voilà », il prit Maulne par le revers de sa jaquette comme pour fixer son attention. Puis il tourna la tête vers la fenêtre, comme pour réfléchir à ce qu'il allait dire, cligna des yeux, et Maun comprit qu'il avait une forte envie de pleurer. Il ravala d'un coup de cette peine d'enfant, puis regardant toujours fixement la fenêtre, il reprit d'une voix altérée, « Eh bien voilà, c'est fini, la fête est finie, vous pouvez descendre le leur dire. Je suis rentré tout seul, ma fiancée ne viendra pas, par scrupule, par crainte, par manque de foi. D'ailleurs, monsieur, je vais vous expliquer. » Mais il ne put continuer. Tout son visage se plissa. Il n'expliqua rien. Se détournant soudain, il s'en alla dans l'ombre, ouvrir et refermer des tiroirs pleins de vêtements et de livres. « Je vais m'apprêter pour repartir, dit-il, qu'on ne me dérange pas. » Il plaça sur la table divers objets, un nécessaire de toilette, un pistolet. Et Maun, plein de désarroi, sortit, sans oser lui dire un mot ni lui serrer la main. En bas déjà, tout le monde semblait avoir pressenti quelque chose. Presque toutes les jeunes filles avaient changé de robe. Dans le bâtiment principal, le dîner avait commencé, mais hâtivement, dans le désordre, comme à l'instant d'un départ. Il se faisait un continuel va-et-vient de cette grande cuisine salle à manger aux chambres du haut et aux écuries. Ce qui avait fini forme des groupes où l'on se disait au revoir. « Mais que se passe-t-il ? » demanda Maun à un garçon de campagne qui se hâtait de terminer son repas, son chapeau de feutre sur la tête et sa serviette fixée à son gilet. « Bon, nous partons, » répondit-il. « Cela s'est décidé tout d'un coup. À 5 heures, nous nous sommes trouvés seuls, nous les invités, ensemble. » Nous avions attendu jusqu'à la dernière limite. Les fiancés ne pouvaient plus venir. Quelqu'un a dit « Si nous partions ?» Et tout le monde s'est apprêté pour le départ. Maun ne répondit pas. Il lui était égal de s'en aller maintenant. N'avait-il pas été jusqu'au bout de son aventure? N'avait-il pas obtenu, cette fois, tout ce qu'il désirait? C'est à peine s'il avait eu le temps de repasser à l'aise dans sa mémoire toute la belle conversation du matin. Pour l'instant, il ne s'agissait que de partir, et bientôt il reviendrait, sans tricherie cette fois. « Oh, si vous voulez venir avec nous, » continua l'autre qui était un garçon de son âge, « hâtez-vous d'aller vous mettre en tenue, nous attelons dans un instant. » Il partit au galop, laissant là son repas commencer et négligeant de dire aux invités ce qu'ils savaient. Le parc, le jardin et la cour étaient plongés dans une obscurité profonde. Il n'y avait pas ce soir-là de lanternes aux fenêtres. Mais comme, après tout, ce dîner ressemblait au dernier repas des fins de noces, les moins bons des invités, qui peut-être avaient bu, s'étaient mis à chanter. À mesure qu'ils s'éloignaient, Maun entendait monter leurs airs de cabaret dans ce parc qui, depuis 2 jours, avait tenu tant de grâces et de merveilles. Et c'était le commencement du désarroi et de la dévastation. Il passa près du vivier où, le matin même, il s'était miré, comme tout paraissait changé déjà, avec cette chanson reprise en chœur qui arrivait par bribes. D'où donc que tu reviens, petite libertine? Ton bonnet est déchiré, tu es bien mal coiffée. Et cet autre encore, mes souliers sont rouges, adieu mes amours, mes souliers sont rouges, adieu sans retour. Comme il arrivait au pied de l'escalier de sa demeure isolée, quelqu'un en descendant qui le heurta dans l'ombre et lui dit « Adieu, monsieur ». Et s'enveloppant dans sa pèlerine, comme s'il avait très froid, disparut. C'était Franz Gallet. La bougie que Franz avait laissée dans sa chambre brûlait encore. Rien n'avait été dérangé. Il y avait seulement, écrit sur une feuille de papier à lettres, placée en évidence, ces mots « Ma fiancée a disparu ». me faisant dire qu'elle ne pouvait pas être ma femme, qu'elle était une couturière et non pas une princesse. Je ne sais que devenir, je m'en vais, je n'ai plus envie de vivre. Qu'Yvonne me pardonne si je ne lui dis pas adieu, mais elle ne pourrait rien faire pour moi. » C'était la fin de la bougie dont la flamme vacilla, rampa une seconde et s'éteignit. Maulne rentra dans sa propre chambre et ferma la porte. Malgré l'obscurité, il reconnut chacune des choses qu'il avait rangées en plein jour, en plein bonheur, quelques heures auparavant. Pièce par pièce, fidèle, il retrouva tout son vieux vêtement misérable, depuis ses godillots jusqu'à sa grossière ceinture à boucles de cuivre. Il se déshabilla et se rhabilla vivement, mais distraitement, déposa sur une chaise ses habits d'emprunt, se trompant de gilet. Sous les fenêtres, dans la cour aux voitures, un remue-ménage avait commencé. On tirait, on s'appelait, on poussait, chacun voulant défraire sa voiture de l'inextricable fouillis où elle était prise. De temps en temps, un homme grimpait sur le siège d'une charrette, sur la bâche une grande carriole, et faisait tourner sa lanterne. La lueur du falot venait frapper la fenêtre. Un instant, autour de Moon, la chambre maintenant familière, où toute chose avait été pour lui si amicale, palpitait, revivait. Et c'est ainsi qu'il quitta, refermant soigneusement la porte, ce mystérieux endroit qu'il ne devait sans doute jamais revoir. La fête étrange, fin. Déjà dans la nuit, une file de voitures roulait lentement vers la grille du bois. En tête, un homme revêtu d'une peau de chèvre, une lanterne à la main, conduisait par la bride le cheval du premier attelage. Mona avait hâte de trouver quelqu'un qui voulut bien se charger de lui. Il avait hâte de partir. Il appréhendait au fond du cœur de se trouver soudain seul dans le domaine et que sa supercherie fût découverte. Lorsqu'il arriva devant le bâtiment principal, les conducteurs équilibraient la charge des dernières voitures. On faisait lever tous les voyageurs pour rapprocher ou reculer les sièges, et les jeunes filles, enveloppées dans des fichus, se levaient avec embarras, les couvertures tombaient à leurs pieds, et l'on voyait les figures inquiètes de celles qui baissaient leur tête du côté des falots. Dans un de ces voituriers, Maulne reconnut le jeune paysan qui tout à l'heure avait offert de l'emmener. « Puis-je monter ? » lui cria-t-il. « Où vas-tu, mon garçon ?» répondit l'autre, qui ne le reconnaissait plus. « Du côté de Sainte-Agathe. Alors, il faut demander une place à Maritain. » Et voilà le grand écolier, cherchant parmi les voyageurs attardés ce Maritain inconnu. On le lui indiqua parmi les buveurs qui chantaient dans la cuisine. « C'est un amusard, lui dit-on. Ils sont encore là, 3 heures du matin. » Maulne songea un instant à la jeune fille inquiète, pleine de fièvre et de chagrin, qui entendrait chanter dans le domaine jusqu'au milieu de la nuit ses paysans avinés. Mais dans quelle chambre était-elle? Où était sa fenêtre parmi ces bâtiments mystérieux? Mais rien ne servirait à l'écolier de s'attarder. Il fallut partir. Une fois rentré à Sainte-Agathe, tout deviendrait plus clair, il cesserait d'être un écolier évadé, et de nouveau, il pourrait songer à la jeune châtelaine. Une à une, les voitures s'en allaient. Les roues grinçaient sur le sable de la grande allée, et dans la nuit, on les voyait tourner et disparaître, chargées de femmes emmitouflées, d'enfants dans des fichus qui déjà s'endormaient. Une grande carriole encore, un char à banc, où les femmes étaient serrées épaule contre épaule, passa, laissant Maulne interdit sur le seuil de la demeure. il n'allait plus rester bientôt qu'une vieille berline que conduisait un paysan en blouse. « Vous pouvez monter !» répondit-il aux explications d'Augustin. « Nous allons dans cette direction. » Péniblement, Moll ouvrit la portière de la vieille guimbarde, dont la vitre trembla et les gonds crièrent. Sur la banquette, dans un coin de la voiture, deux tout petits enfants, un garçon et une fille, dormaient. Ils s'éveillèrent au bruit et au froid, se détendirent, regardèrent vaguement, puis en frissonnant, se renfoncèrent dans leur coin et se rendormirent. Déjà, la vieille voiture partait. Moll ne referma plus doucement la portière et s'installa avec précaution dans l'autre coin, puis avidement s'efforça de distinguer à travers la vitre les lieux qu'il allait quitter et la route par où il était venu. Il devina, malgré la nuit, que la voiture traversait la cour et le jardin, passait devant l'escalier de sa chambre, franchissait la grille et sortait du domaine pour entrer dans les bois. Fuyant le long de la vitre, on distinguait vaguement les troncs des vieux sapins. Peut-être rencontrerons-nous Franz de Galais, se disait Maune le cœur battant. Brusquement, dans le chemin étroit, la voiture fit un écart pour ne pas heurter un obstacle. C'était autant qu'on pouvait deviner dans la nuit à ses formes massives une roulotte arrêtée presque au milieu du chemin et qui avait dû rester là à proximité de la fête durant ces derniers jours. Cet obstacle franchi, les chevaux repartis au trot, Moll commençait à se fatiguer de regarder à la vitre, s'efforçant vainement de percer l'obscurité environnante, lorsque soudain, dans la profondeur du bois, il y eut un éclair suivi d'une détonation. Les chevaux partirent au galop, et Maud ne sut pas d'abord si le cocher en blouse s'efforçait de les retenir ou au contraire les excitait à fuir. Il voulut ouvrir la portière. Comme la poignée se trouvait à l'extérieur, il essaya vainement de baisser la glace, la secoua. Les enfants, réveillés en peur, se serraient l'un contre l'autre sans rien dire. Et tandis qu'il secouait la vitre, le visage collé au carreau, il aperçut, grâce à un coude du chemin, une forme blanche qui courait. C'était, hagard et affolé, le grand Pierrot de la fête, le bohémien en tenue de mascarade, qui portait dans ses bras un corps humain serré contre sa poitrine. Puis tout disparut. Dans la voiture qui fuyait au grand galop à travers la nuit, les deux enfants s'étaient rendormis. Personne à qui parler des événements mystérieux de ces deux jours. Après avoir longtemps repassé dans son esprit tout ce qu'il avait vu et entendu, plein de fatigue et le cœur gros, le jeune homme, lui aussi, s'abandonna au sommeil comme un enfant triste. Ce n'était pas encore le petit jour lorsque, la voiture s'étant arrêtée sur la route, Moll fut réveillé par quelqu'un qui cognait à la vitre. Le conducteur ouvrit péniblement la portière et cria, tandis que le vent froid de la nuit glaçait les colliers jusqu'aux os. « Il va falloir descendre ici, le jour se lève, nous allons prendre la traverse, vous êtes tout près de Sainte-Agathe. » À demi-replié, Moll obéit, chercha vaguement d'un geste inconscient sa casquette qui avait roulé sous les pieds des deux enfants endormis dans le coin le plus sombre de la voiture, puis il sortit en se baissant. « Allons, au revoir !» dit l'homme en remontant sur son siège. « Vous n'avez plus que 6 kilomètres à faire. Tenez la bornée là, au bord du chemin. » Moll, qui ne s'était pas encore arraché de son sommeil, marcha courbé en avant d'un pas lourd jusqu'à la borne et s'y assit, les bras croisés, la tête inclinée comme pour se rendormir. « Ah non !» cria le voiturier. « Il faut pas vous endormir là, il fait trop froid. Allons debout, marchez un peu. » Vacillant comme un homme ivre, le grand garçon, les mains dans ses poches, les épaules rentrées, s'en alla lentement sur le chemin de Sainte-Agathe. Tandis que, dernier vestige de la fête mystérieuse, la vieille berline quittait le gravier de la route et s'éloignait, cahotant en silence, sur l'herbe de la traverse. On ne voyait plus que le chapeau du conducteur dansant au-dessus des clôtures.